S'il fallait donner un titre à ce passage évangélique, il faudrait peut-être l'appeler « Jésus entre dans la temporanéité de la pâte humaine ». Il expérimente le temps qu'il faut pour que les paroles, les événements, les regards pénètrent les cœurs des hommes et produisent le fruit attendu. Nous en avions un certain enseignement dans la première lecture notamment. S'il fallait peindre ce passage, il faudrait représenter des visages à l'expression singulière et soignée, dont les regards s'entrecroiseraient merveilleusement, parfois admiratifs, parfois dans l'étonnement, ou encore dans la stupéfaction et le questionnement. Et s'il fallait enfin assimiler cette page d'évangile, il faudrait sans doute la mimer pour en ancrer la profondeur décisive, en prenant soin toutefois de traduire en voix off ce qui a bien pu se passer dans les cœurs des personnages, les uns vis-à-vis des autres. Il y a d'abord Jean-Baptiste. Hier déjà, je veux dire dans le passage qui précède juste celui que nous avons entendu, la veille donc, Jean a déjà désigné Jésus comme l'agneau de Dieu, tandis que ce dernier venait vers lui pour recevoir le baptême. À ce moment-là, aucun des disciples de Jean n'avait alors semblé songer à aller vers lui. Pourtant, ils avaient vu et entendu. Mais il fallait du temps pour que la parole de leur maître Jean-Baptiste pénètre, descende, produise un désir et enfin un élan. Et puis le lendemain, notre évangile, donc Jean, se met à regarder Jésus qui allait et venait, nous dit le texte. Longuement, peut-être, Jean l'a regardé. Que pouvait donc bien faire Jésus à marcher ainsi? Nous ne le savons pas. Et dans son esprit, Jean repasse peut-être cette prophétie qui s'est donc accomplie la veille. « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui. » La marque de Dieu, c'est toujours ce qui demeure. Monte alors du cœur de Jean jusqu'à ses lèvres cette parole qui lui revient, cette parole qui a été préparée pour lui depuis des siècles. Cette parole qui accomplit son destin de prophète, voici l'agneau de Dieu. Tout est dit. Pour mettre comme un sceau à ses précédents contacts avec Jésus, d'une phrase, il désigne enfin le Messie qu'il avait pressenti d'un tressaillement la toute première fois dans le sein d'Élisabeth. Troisième et dernière reconnaissance avant de diminuer et de diminuer même jusqu'à en perdre la tête. En agissant ainsi, Jean sait ce qui va se passer, ce qui doit se passer, à savoir que parmi les disciples qui le suivaient, certains vont marcher derrière l'agneau. Jean le sait, il ne regrette rien. Il les y a préparés, il s'y est lui-même préparé. Et cela le met dans une joie inimaginable. Déjà dans le ventre d'Élisabeth, il avait tressailli d'allégresse. Ici, c'est la joie de l'ami de l'époux. Et aussitôt, deux de ses disciples se mettent à suivre Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Un regard, une parole, une action. Et voici que Jésus les voit et se retourne. Les deux disciples ne semblent pas avoir été pris au dépourvu, puisqu'ils savent que répondre à Jésus qui s'intéresse de savoir ce qu'il cherche. Jésus a bien vu qu'il cherche quelque chose. Car Jésus remarque toujours celui qui cherche en vérité. Et aussitôt, il leur propose de venir voir où lui, Jésus, demeure. Et il demeure avec lui ce jour-là, nous dit l'évangéliste. Ces mots font écho à l'évangile selon saint Marc, à ce passage où il est écrit au sujet des apôtres que Jésus choisit et qu'il en établit 12 pour qu'ils demeurent avec lui. Et c'est ainsi que s'achève, semble-t-il, le deuxième jour après que Jean le Baptiste ait désigné l'agneau de Dieu. Nous ne savons presque rien de cet après-midi-là, sinon l'essentiel. Ils ont demeuré avec Jésus. Un regard, une parole, une action. Le troisième jour, André est allé trouver son frère Simon pour lui dire « Nous avons trouvé le Messie ». Et là encore, nous ne possédons aucun détail sur cette scène-là. Néanmoins, pour avoir parlé à son frère, André a bien dû commencer par le regarder. Puis il l'a conduit à Jésus, après lui avoir dit ce qu'il vient de trouver. Le mouvement est plus rapide peut-être et sans grande nuance, un peu comme au matin de Pâques où Pierre court vers le tombeau. Mais encore une fois, un regard, une parole, une action. Et Jésus regarde à son tour Simon venir à lui. Le texte reprend le même vocabulaire qui a été prêté à Jean-Baptiste avant qu'il ne désigne le Messie. Le texte dit « Il posa son regard sur lui ». Le même verbe grec désigne la même attitude de discernement sans hésitation. Autrement dit, de même que Jean n'a pas hésité à désigner l'agneau de Dieu, Jésus non plus ne va pas hésiter à regarder Simon, la profondeur de Simon, à le désigner, à le nommer et même à le renommer. Et Jésus déclare « Tu es, tu seras ». Et Simon devient Pierre. À partir d'un regard et d'une parole. Une parole performative, une parole messianique, une parole de Jésus. Et Simon est transformé. Et pour la première fois de sa vie, peut-être même pour la seule du reste, Pierre ne réagit pas. Il semble littéralement pétrifié. Et pour cause. Bien singulièrement s'accomplit pour lui le dicton romain « nomen omen ». Un nom est un présage. Et voilà pour Simon-Pierre, qui demeure dans le secret de cette rencontre avec le Messie. De sa part à lui, Pierre, il n'est fait mention ni d'un regard, ni d'une parole, ni d'une action. Pierre est comme figé dans le silence et le poids de ce regard, de cette parole transformante. Ainsi donc, à peine désigné, Jésus désigne. C'est le premier acte de décision, de désignation, pourrions-nous presque dire, de sa vie publique, au troisième jour de son apparition dans l'Évangile selon saint Jean. L'auteur nous dévoile Jésus formant son corps qu'est l'Église. Après avoir choisi et désigné Pierre, la nouvelle va naturellement se propager comme une traînée de poudre. Ce sera Philippe, puis Nathanaël et tous les autres, jusqu'à chacun de nous, sur qui Jésus a posé un jour son regard d'une manière ou d'une autre. Puissions-nous retrouver la fraîcheur de ce ferme et doux regard de Jésus posé sur chacun de nous et en prendre conscience. Puissions-nous entendre cet appel qu'il nous a adressé personnellement, peut-être plus de 3 fois comme Samuel, et que nous n'entendons peut-être pas toujours encore. Puissions-nous enfin accomplir nous aussi la part qui nous a été confiée humblement et sans bruit, en sorte qu'elle porte du fruit pour nos frères et sœurs et pour la vie éternelle. Amen.